Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical Tendance Confidence. Nicolas Zeller, vous travaillez comme médecin-chef dans les forces spéciales en France. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre paru aux éditions Talendier, qui est comme titre « Corps et âme ». Qu'est-ce que vous acceptez de dire de vous-même pour continuer de vous présenter aux auditeurs de Tendance Ouest ?
Je suis médecin, voilà, je suis médecin et je le fais dans un environnement très particulier qui est celui des armées. Ce métier de médecin militaire, il nous fait rencontrer l'autre. Et cet autre, c'est un soldat. Et ce soldat, aujourd'hui, il peut paraître parfois un peu banal. Mais en réalité, quand on le rencontre, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour la France.
Et dans ce cadre militaire, quelles peuvent être les missions de ces forces spéciales ?
Alors les forces spéciales, c'est des commandos qui sont formés, entraînés, équipés pour conduire des opérations dont l'intérêt est stratégique pour le pays, qui revêt un caractère essentiel pour la sécurité du pays, on pourrait le traduire comme ça. J'y suis arrivé comme médecin, toujours bien sûr, un peu sur le tard, entre guillemets. J'avais déjà commencé à soutenir d'autres régiments de l'armée de terre avant de faire ce choix de rejoindre ces unités-là qui sont un peu particulières, mais dans lesquelles la densité humaine se conjugue avec la densité des opérations et se crée une alchimie très particulière.
Alors lorsque nous parlons de l'armée, nous parlons d'elle parfois comme la grande muette. Vos patients, qui sont aussi des militaires, peuvent vous parler en toute liberté ?
Ah oui, il y a une parole libre dans le cabinet du médecin. Les gens se livrent, les gens partagent. Parfois, pas tout de suite, c'est subtil, il faut parfois un peu de temps, mais globalement on arrive à créer ce lien entre un patient, un malade, un blessé et son médecin de façon tout à fait identique à ce qui peut se passer dans le monde civil. C'est ce qu'on vit humainement qui crée cette intimité. Le soldat est pas muet, en tout cas pas dans l'intimité du bureau de son médecin.
Les personnes se livrent, vous en avez fait un ouvrage. Tout livre est un voyage. J'emprunte ces quelques mots à Eric Orsena qui a préfacé votre livre qui a comme titre « Corps et âme ». Mais ce livre-là est un voyage à nul autre pareil car il vous conduit en des régions extrêmes, là où la vie côtoie quotidiennement la mort. Eric Orsena, ça vous inspire un commentaire ?
Là où la vie côtoie quotidiennement la mort. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose d'essentiel pour ceux qui connaissent pas le monde des armées ou pour ceux qui se posent la question de s'engager dans les armées. La réalité du soldat, c'est celle de la guerre. Dans cet événement qu'est le fait guerrier, eh ben c'est la mort. C'est sur le champ de bataille. Ce qui est incroyable, c'est quand un jeune de 20 ans, 30 ans fait ce choix de s'engager et qu'il découvre que effectivement non seulement il risque sa vie mais il peut aussi donner la mort. Tout ça dans un espace-temps et un âge auquel, en principe, on est censé donner la vie. Voilà tout ce que ça crée comme matière humaine derrière.
Et cet âge des 20-30 ans, c'est aussi la génération de ces jeunes qui ont débarqué lors de la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement en Normandie. Que vous inspire ce chapitre de l'histoire avec ces tragédies ?
Le débarquement, les plages du débarquement, pour ceux qui y ont été, y a quelque chose d'assez impressionnant, c'est la majesté du lieu. Quand on regarde ces lieux-là, il y a quelque chose qui vous emporte, il y a quelque chose de magnétique qui sort de ces terres. Quand je ferme les yeux et que je pense au débarquement, je vois ces jeunes soldats courir en sortant de la barge, alors que le danger est partout, mais ils y vont en courant. Et ça, dans le mouvement, dans l'action, je trouve ça très, très porteur pour quelqu'un qui aujourd'hui se pose la question de s'engager. Ils ont donné leur vie, voilà, ils ont donné leur vie. Et c'est pas que parce que certains sont morts, nombreux d'ailleurs, mais c'est parce qu'ils ont fait l'acte de s'engager. Et ça, c'est très fort aujourd'hui.
Nicolas Zeller, je rappelle que vous avez le grade de colonel, vous êtes médecin-chef au sein des forces spéciales de l'armée française. Que vous inspire le sous-titre de cette émission, Cœur et vie, alors que le titre de votre livre est Corps et âme ?
Pour se poser cette question du sens de la vie, quel sens a ma vie ? Il faut s'arrêter deux minutes, il faut s'ouvrir au monde, il faut du coup faire fonctionner son cœur, son corps et son âme. Et aujourd'hui, force est de constater que parfois on travaille beaucoup l'esprit, on travaille beaucoup le corps et l'âme, c'est quelque chose qu'on n'arrive plus trop à ni à comprendre, ni à expliquer, c'est complexe, à vivre au quotidien, à identifier cette part de nous-mêmes qui nécessite un entretien.
Et selon vous, qu'est-ce qu'un soldat ?
Un soldat, c'est un homme, c'est un être humain. dans ces trois dimensions. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre au monde d'aujourd'hui, mais il est en mouvement, qui fait fonctionner les trois pistons de son moteur, le corps, l'âme et l'esprit en même temps, et ce qui finalement lui permet de poser cet acte d'engagement qui est majeur.
Que devient le « tu ne tueras point », commandement ancestral universel, fortement ancré dans notre culture, « tu ne tueras point ».
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, la société donne à une part des hommes qui la composent le pouvoir exorbitant de porter la violence à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, mais en tout cas, pour prémunir cette société d'une menace existentielle. Si les soldats ne s'engagent pas, l'existence même de la nation est compromise. En faisant ce choix, en octroyant ce pouvoir exorbitant à une part d'elle-même, cette société finalement accepte que ces gens-là soient exonérés de ce commandement ancestral qui est celui-là, tu ne tueras point. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui prient pour le repos de nos âmes.
Ce mot d'engagement est fort de sens, et vous le savez, hein, Nicolas Zeller, faisant partie de ce corps de l'armée, aussi dans le corps médical, puisque vous êtes médecin-chef dans les forces spéciales, comment demeurer fidèle à un engagement ?
Cette question-là, c'est la question de la fidélité dans l'adversité. Ça vaut dans le mariage, ça vaut dans les métiers vocationnels, ça vaut dans le métier militaire, bien entendu. Le point commun de ça, c'est ce mot-là, hein, engagement. Mettre en gage sa vie, c'est-à-dire confier sa vie à quelqu'un d'autre.
S'engager en pleine conscience, avec le risque d'y perdre même sa vie, s'engager pour servir la patrie, cela peut apparaître fou.
Oui, c'est fou, mais c'est beau. Une fois qu'on a réfléchi à cette question, une fois qu'on a posé quelques bases de réflexion autour du don de sa vie, de l'orientation de sa vie, probablement que la peur disparaît. Et probablement que l'angoisse qui va avec le choix qu'on fait, qui nécessite une part d'abandon, qui nécessite une part de, non pas tant de déracinement, mais en tout cas acceptation de ne plus totalement être à soi et d'être confié à quelqu'un d'autre. Alors dans l'armée c'est un chef, mais dans la vie de tous les jours c'est peut-être une famille, dans la vie de tous les jours c'est pour certains Dieu, voilà, enfin quelqu'un d'autre. Une fois qu'on a fait ce choix-là, les angoisses disparaissent.
Tendance Confidence avec aujourd'hui comme invité un médecin-chef militaire, Nicolas Zeller, qui est aussi auteur de ce livre « Corps et âme » paru aux éditions Talendier. Je vous cite à la page 214 « Le général devient le serviteur de ses hommes. En les servant, il les fait grandir. Quel est le désir d'un chef si ce n'est de faire grandir son soldat pour ainsi être plus fort avec eux dans le combat ?» Ça vous inspire un commentaire ?
En réalité, l'autorité, c'est effectivement verticale, parce que sinon, on n'arrive pas à faire fonctionner un collectif, c'est particulièrement vrai dans l'armée, mais c'est à double flux. Et le principal rôle d'un chef, c'est d'être au service de ses subordonnés. Et du coup, les subordonnés orientent leur action pour servir leur chef, mais ce chef-là, il est aussi le subordonné d'un autre chef. Et de proche en proche, vous structurez, notamment dans les armées, une chaîne de commandement. Mais la première vocation d'un chef, c'est d'être au service de ses subordonnés.
La grandeur du service.
Oui, c'est abyssal, hein, quand on prend conscience de ce qu'est être au service des autres. Je pense qu'on n'en a jamais fait le tour. Je pense que c'est toujours source de doute. Je pense que tous ceux qui sont au service se rendent compte combien c'est difficile d'être au service, combien ça vient tirailler ce qu'il y a en nous de plus bas et de plus humain, et que effectivement être au service, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui est d'une extrême profondeur et qui nécessite à tout prix oui des efforts. Oui.
Et que faites-vous comme distinction entre autorité et pouvoir ?
Alors l'autorité est au service de son subordonné, celui qui use d'une autorité despotique, il se sert, il prend. Celui qui est au service, il donne. Voilà. Il y a quelque chose entre le pouvoir et le service qui s'oriente pas de la même façon. On donne et on recevra autre chose sous une autre forme qu'on n'a pas du tout calculée probablement d'ailleurs et qui nous surprendra. Et l'autre, il se sert, il prend. Quand on vient dans les armées, on y vient pour servir et pas pour se servir.
Et ce que vous nous dites là peut nous apparaître exigeant et nécessite du courage pour s'y tenir.
Ce qui est génial avec le courage, c'est qu'on ne naît pas courageux. C'est pas déterminé génétiquement. Il y a derrière le courage la notion de la volonté, et donc derrière la question de la volonté, la question de qu'est-ce que je désire. Et c'est pour ça que ces deux choses-là sont articulées. Si on est dans le plaisir, la jouissance et qu'on prend, on n'est pas dans le don et le service. Et donc, on ne peut pas avoir des désirs. Et donc, on ne peut pas être en mouvement, faire des choix. Et à la fin, c'est extrêmement compliqué d'être courageux parce qu'on va être taraudé par la peur et les remords.
Et j'imagine que cela nécessite du courage. Quelle vérité dire aux malades ?
Il n'y a que l'homme pour se poser cette question-là, finalement. Quand on est dans cette intimité, dans ce rapport très intime qui unit un médecin et un malade ou un blessé, les vérités se lisent, les vérités se traduisent par des gestes, par une attention particulière, par des mots aussi, bien sûr, mais il faut aussi trouver le temps de dire les vérités. Il y a un temps pour les dire, un temps pour ne pas les dire aussi. Pour réussir à trouver l'alchimie dans cet espace-là, il faut bien connaître les gens, il faut que les gens nous connaissent, il faut avoir créé cette relation. Et puis la vérité se dit et se vit naturellement.
Est-ce que ça serait la vérité que le patient, que le malade est capable d'entendre dans l'état où il se trouve ?
Oui, c'est ça, c'est la vérité qu'il est capable d'entendre au moment où il est capable de l'apercevoir, au moment où elle fera sens pour lui. En tout cas, je crois que ce qui est essentiel pour les médecins, c'est pas de se sentir détenteur, dépositaire de la vérité et du savoir. On sait des tas de choses que nos malades ne savent pas, et pour autant, qu'est-ce qu'on peut ne pas leur livrer ? Pas grand-chose, mais peut-être pas tout au même moment. Peut-être est-il pas forcément ouvert à entendre telle ou telle chose à tel ou tel moment, mais ça se sent, ça se vit, ça s'apprend, puis ça se perçoit, enfin il y a quelque chose d'assez subtil.
Est-ce que vous acceptez, Nicolas Zeller, de poser votre voix sur ces lignes que vous avez écrites dans ce livre qui a comme titre « Corps et âme » ? Cet extrait se trouve à la page 241.
Ah oui, très beau moment. Le manque de transcendance fragilise, faute d'armature solide, le soldat face à la réalité des combats. Il lui manque un squelette et non l'exosquelette qu'on lui promet à l'ère du tout technologique. Il lui faut donc épaissir son corps, son âme et son esprit. Ben merci d'avoir choisi ce passage. Effectivement, aujourd'hui, on vit dans une société de toute puissance, de maîtrise parfaite de son environnement. Et c'est un puissant fond. Il y aura toujours l'opportunité de faire plus. Et effectivement, cette image de l'exosquelette, de l'homme augmenté, pour certains même de thèses transhumanistes, tout ça pousse quelque part à maîtriser de plus en plus tout notre environnement. Ça parle au médecin que je suis, ça parle au militaire que je suis, parce qu'en réalité, je trouve, mais ça n'engage que moi, que dans la guerre, dans le fait guerrier, dans l'instant du combat, on se rend compte que tout ça vole en éclats à une vitesse incroyable et que finalement, derrière toute cette technologie, il y a un homme, tout simple, avec une âme qui, elle, vient interagir directement avec ce qui se passe, et que là, on pourra mettre toute la technologie autour de cet homme. Cette âme ne sera jamais étouffée, en réalité.
Je vous livre cette autre citation. Jacques Sauvé, déporté à Dachau, pour fait de résistance, écrivait « Vivre comme des vivants pour aider les mourants à mourir comme des vivants ».
Oui, s'il y a bien quelqu'un qui doit vivre comme un vivant, c'est le militaire et son médecin au passage, parce que effectivement, on peut faire prendre conscience à nos soldats, mais c'est valable pour encore une fois toutes les formes d'engagement vocationnel. L'essentiel n'est pas ce qu'on va y perdre, mais ce qu'on va y donner. L'essentiel est ce qu'on en recevra, mais qu'on ne perçoit pas au moment où on fait ses choix, et que ce choix-là, il se fait en pleine conscience et il se fait de façon totalement désintéressée, et qu'il permet, dès lors qu'on a compris ça, de vivre au sens profond du terme, non pas survivre ou espérer vivre ou tout ce que vous voulez comme autre artifice, juste vivre.
Et au terme de ces deux émissions, Nicolas Zeller, quel est ce message que vous souhaitez adresser aux auditeurs de Tendance Ouest ?
Je dirais aux jeunes de ne pas avoir peur de s'engager et d'y orienter toute leur vie, de mettre en gage leur vie, de faire ce choix libre de se mettre au service, quelle que soit la forme de service, quelle que soit la forme d'engagement, qu'il soit militaire ou civil, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des grandes vocations, l'éducation, la vocation des ordres, la vocation de la justice, la vocation de l'enseignement et la vocation médicale. Allez-y pleinement, vivez pleinement ces vocations, engagez-vous. Vous êtes dans une génération qui a d'énormes qualités, qui sait s'engager, qui n'a pas peur d'affirmer des convictions. Vous avez cette qualité-là, usez-en pour vous engager.
Et que direz-vous à Dieu au soir de cette vie terrestre et au matin d'une vie céleste, Nicolas Zeller ?
J'en sais strictement rien, mais là, comme ça, spontanément, j'aurais tendance à lui dire merci.
Et la question que vous aimeriez lui poser après ce que vos yeux, vos oreilles auront entendu et vos yeux vus ?
Comment vont ceux qui sont partis ?
Merci beaucoup, Nicolas Zeller, pour ses confidences accordées à ce micro de Tendance Ouest.
Merci.
Et je rappelle le titre qui a fait aussi naître cette rencontre, Nicolas Zeller. Vous êtes l'auteur de ce livre, Corps et âme, une préface d'Éric Orsenna. Et en première de couverture, nous pouvons lire Un médecin des forces spéciales témoigne. Et c'est paru aux éditions Talendier.